À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera de nouveau question de cette très très grande sainte qui est Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui est morte à 33 ans, qui ne mesurait même pas 5 pieds, je crois. Toute petite, grande mystique, un prophète, une laïque engagée. Une femme qui n'a pas cessé de voyager et de dire et de dicter des lettres et de même dicter des prières extrêmement mystiques. Elle est morte en 1380, à une époque, je dirais presque pire que la nôtre, une époque où la décadence était terrible, où il y avait la peste, une époque où elle a eu beaucoup à faire pour essayer d'aider les gens, à continuer à espérer, à aimer et à vivre leur foi. Tout au long de l'histoire de l'Église, on trouve chez les saints des vies magnifiques, des vies pleines de merveilles et puis de spiritualités différentes. Dans ce qu'on appelle la communion des saints, l'ensemble, nous sommes dans la communion des saints, nous sommes considérés aussi comme des saints nous-mêmes à cause de notre baptême. Et eux, là, je parle des vrais saints, là, des saints qui sont beaucoup mieux que la plupart d'entre nous. Hein. Mais quand même, tous les baptisés ont pu se trouver des frères et des sœurs proches et aimants parmi ces saints particuliers, ces saints qui se détachent sur nous tous. Hein. Les saints nous sont donnés par Dieu pour nous entourer, pour nous assister. Il faut jamais penser que les saints sont loin, ils sont sont près de nous. Je vous le répète encore, nous sommes au ciel. Mais nous ne voyons pas. Nos yeux sont de chair. Hein? Je vous le répète, Dieu est là. Oui, la Trinité est là. Nous sommes dans la Trinité est en nous. Nous sommes inséparables de Dieu et inséparables de tous ces saints qui nous entourent et des anges. Et même de nos parents qui sont des saints, de nos enfants, etc. Mais c'est pour nous apprendre aussi ce que nous avons à connaître comme enfants de Dieu qui sont là. Et ils nous chuchotent à l'oreille de notre cœur des paroles, des conseils. Ils nous sont proposés surtout en exemple pour nous attirer à la sainteté que Dieu veut pour chacun de nous. Et on trouve chez les saints une grande diversité de charismes. C'est des charismes merveilleux, parfois tellement grands qu'on est comme écrasé. Mais il ne faut pas s'en faire. Hein? Des charismes, ce sont des dons de Dieu qui ne font pas la sainteté. La sainteté, c'est l'amour. Il y a une grande diversité de charismes qui est un aspect important du rayonnement des saints. Et chez Sainte Catherine de Sienne, elle en avait plusieurs. C'est un rayonnement extraordinaire que les saints ont sur leurs contemporains, sur les gens qui vivent autour d'eux. Pensez à Thérèse de l'Enfant Jésus, comme elle a eu un rayonnement finalement sur ses contemporains. Puis, prenez Marthe Robin, puis le Père Pio qui va être béatifié, puis Charles de Foucault qui n'a pas été canonisé malheureusement, mais tout le rayonnement. Mais le rayonnement de quantité de saints est fantastique. Ça rayonne sur la vie de l'Église et les charismes chez les saints sont indissociables, on peut dire, de leur personnalité, de leur figure de sainteté. Puis un certain nombre de saints, comme Sainte Catherine de Sienne, c'est la fête aujourd'hui, ou le curé d'Ars, hein, qui est le patron des prêtres, ou Don Bosco, qui est le patron des éducateurs des jeunes. Vous les connaissez, je vous en ai parlé souvent. Mais ils ont exercé des charismes extraordinaires de sorte que, comme je vous disais, on en vient à penser parfois que les charismes sont réservés aux grands saints, puis d'autre part que les charismes se ramènent aux charismes extraordinaires. C'est dons qu'on appelle des charismes, les dons qui viennent de l'Esprit-Saint. On appelle ça des charismes. Eh bien, parfois, on pense que plus les charismes sont extraordinaires, plus la sainteté apparaît exceptionnelle. Mais comme je vous ai dit, c'est évidemment se tromper, et sur la sainteté et sur les charismes, parce que les charismes sont d'abord et avant tout des grâces particulières, je vous le répète, données par l'Esprit-Saint. Pourquoi? C'est pour la croissance dans la charité de l'Église et des communautés chrétiennes, pour le bien de tous. Pensez à Mère Teresa qu'il y avait ce charisme de la charité qui a répandu autour d'elle des élans de charité. Dieu travaille à travers nous, à travers nos saints. Ils sont donnés par l'esprit d'amour, les charismes. Et les charismes se reconnaissent à l'amour dont ils sont issus et qu'ils éveillent dans nos cœurs. Ce sont des dons spirituels. Les charismes portent la marque de l'amour. et pour situer exactement les charismes parmi les grâces de l'Esprit-Saint, il y a quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut rappeler que, quelle que soit l'importance des charismes pour la vie de l'Église, il n'y a pas de commune mesure entre eux et ce qu'on appelait autrefois la grâce sanctifiante. Et qu'on devrait toujours appeler la grâce sanctifiante parce que c'est une grâce qui sanctifie, et cette grâce, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence et son esprit. Qui nous donne de communier à la nature divine, c'est Dieu qui s'unit à nous et qui nous permet de nous unir à lui. Les charismes sont des instruments qui servent à quoi? Ben, au bien commun. On parle souvent du bien commun. Disons, au bien de l'ensemble de la société. D'abord, de la communauté des chrétiens. Mais ils sont pas, les charismes en eux-mêmes, cette vie divine. Non. En laquelle Dieu veut attirer l'homme, puis qu'il emporte sur tout le reste. De sorte qu'un charisme, comme l'Évangile selon saint Jean nous le rapporte, ne témoigne pas nécessairement de la sainteté de celui qui l'exerce. On peut avoir des grands charismes puis pas être des saints. Non, être de pauvres pécheurs qui portent des charismes. C'est curieux, Dieu se sert aussi des gens comme ça. C'est la charité qui fait la sainteté. Parfois, pour accorder moins d'importance au charisme, on les compare puis on les oppose à la charité. C'est pas une mauvaise idée. Communion à la vie même de Dieu, la charité n'est pas un charisme, elle est la charité, la voie par excellence, c'est le chemin de la sainteté, de l'union à Dieu. Mais les charismes sont donc toujours soumis à la charité et manifestation de l'esprit, mais c'est l'esprit qui se manifeste par les charismes là, que les gens ont. Puis on a tous des charismes, hein? On en a tous, la seule affaire c'est qu'on les développe pas. On a des trésors, c'est comme des talents cachés, hein, celui qui, vous savez, dans l'Évangile, les gens ont des talents, reçoivent des talents, c'est-à-dire, en fait, de la monnaie. On appelait ça des talents, mais le jeu de mots se fait très bien. Puis le talent, au lieu de le faire profiter, de l'investir, puis de le faire profiter comme l'argent peut profiter, il l'enterre. C'est ce qui nous arrive souvent, on a des talents, puis on les enterre. Ou bien, on voudrait s'en servir, mais il n'y a personne qui nous permet de nous en servir. C'est donc les manifestations de l'esprit, les charismes en définitive, qui se reconnaissent au résultat unique et très, très, très diversifié de l'Esprit-Saint qu'ils portent. Quels sont les fruits? Comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est écrit dans l'Épître aux Galates, saint Paul a bien fait ça il y a 2000 ans. Les fruits, c'est la charité d'abord. La joie. Ah, oh, sainte Catherine de Sienne, elle avait la joie. Énormément. La paix. Ce qu'on appelle la longanimité. C'est cette espèce de être longanime, être généreux, attentif. La serviabilité. Être toujours empressé, doucement et humblement rendre service. Comme Jésus nous l'a donné l'exemple quand il a lavé les pieds de ses apôtres, imaginez. Puis la bonté aussi, un des fruits. Puis la confiance dans les autres. Pas facile toujours d'avoir confiance dans les autres, hein? Ben, les charismes se reconnaissent à ce fruit-là. Confiance dans les autres. La douceur aussi, puis la maîtrise de soi. Et cependant, comme l'Esprit-Saint se sert d'instruments humains infaillibles, que nous sommes des pauvres types, eh bien, il est normal que l'exercice de ces charismes ne soit pas indemne d'imperfections humaines. On rencontre même ça chez les saints, hein. Vous savez, vous connaissez ça, hein. On dit de certains saints qu'ils ne faisaient pas toujours bon vivre en permanence à côté d'eux. Il paraît que c'est pas facile. C'est pourquoi, si le discernement des charismes consiste à vérifier tout, à retenir ce qui est bon, comme on dit dans la première épître aux Thessaloniciens, il ne s'agit pas d'exiger de ceux qui les exercent une perfection absolue. Alors, quand quelqu'un a un charisme, allons vers lui, même s'il y a des défauts. Allons vers elle, même s'il y a des défauts. Parce que Dieu passe par là. Oublions les défauts. Ne jugeons pas trop. Puis recevons les charismes. Profitons-en. Pour vivre de l'Esprit-Saint, nous ne devons pas tant aspirer au charisme extraordinaire, d'ailleurs, que de désirer de devenir nous-mêmes des saints. Il nous faut, comme dit le frère Albert-Marie de Montléon, qui est évêque, mais il se fait appeler frère parce qu'il est dominicain. Les dominicains ne se font plus appeler père en France. Alors il signe frère Albert-Marie de Montléon, évêque de Pamiers. Que c'est beau, hein? Et nous ne devons pas tant donc aspirer à des charismes extraordinaires. Nous devons, dit-il, désirer devenir des saints. Il nous faut néanmoins souhaiter aussi, dit-il, exercer les charismes afin de participer à la croissance de l'Église. Il faut participer à cette croissance de l'Église. Et le synode qui s'est terminé hier, et qui, au fond, ne fait que commencer, puisqu'il faut mettre en pratique tout ce qui vient d'être conclu, et j'espère que ça va changer les choses, eh bien, en tout cela, l'essentiel est de nous laisser façonner et guider par l'Esprit-Saint, pour entrer dans toute la plénitude du Christ. Parce que lorsque les saints sont présentés isolément, là, comme je fais, moi, depuis 4 ans, ou 4 ans, le 1er mai, on s'habitue à les voir comme des personnages à part. Leur vie semble relever de la même logique que celle des contes, hein? Souvent. Oh, il y a des huit saints, c'est tellement extraordinaire. Et Saint-Joseph de Coupertino, c'est tellement incroyable. On l'a retrouvé au sommet des arbres, croyez-le pas. L'émission va repasser au mois de juin, là, à 10h le soir. Il n'y a pas d'émission le matin, c'est supprimé le matin pendant l'été. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est supprimé le matin, ça ne passe que le soir à 10h, à 22h. Alors, leur vie à ces saints-là, ça semble relever de la même logique que celle des contes. L'extraordinaire, et ça a l'air d'être leur ordinaire, eux autres. Ils sont dans l'extraordinaire. Souvent, pas tous, mais enfin. Ils ont alors tout pour nous décourager. Mais Sainte Catherine de Sienne, elle n'a pas échappé peut-être à cette déformation-là. Mais c'est pourquoi il faut mettre Sainte Catherine de Sienne dans son peuple, à l'époque où elle a vécu. Et comme ça, on va pouvoir continuer à exercer avec elle, on pouvoir constater chez elle ce rayonnement qui va de maison en maison, de boutique en hôpital, finalement de château en prison, puis de monastère en palais ecclésiastique, pour voir le pape et lui parler. Imaginez une petite femme dans la vingtaine qui va voir le pape pour lui parler. Elle est morte à 33 ans. Il y a des rats des villes, il y a des rats des champs, il y a des saints dans la vie monastique, puis d'autres dans la vie ordinaire. Et cette Sainte Catherine de Sienne, dont le vrai nom c'est Catherine Benincasa, bien à la maison, Benincasa, j'imagine, ben c'est de ce genre-là, elle. La vie ordinaire. Elle est une laïque. Elle appartient à un peuple d'artisans et de marchands, d'ailleurs, hein. Et un pape disait d'elle, c'est le pape Urbain VI, disait « Cette petite femme nous fait honte à tous. » Oui, celle qui suscite ainsi l'admiration de ce pape Urbain VI, c'est Catherine Benincasa, elle a 33 ans. Puis elle vient d'exhorter les cardinaux et les évêques de Rome à la demande du pape lui-même, qui est le vicaire du Christ, comme on l'appelle souvent, ou si vous voulez, le successeur de Saint-Pierre, à la tête de l'Église, fondé par Jésus-Christ sur Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Elle est étonnante, cette Catherine. Elle est stimulante, cette petite femme. Je vous ai dit qu'elle était petite, elle mesure 1m48, donc moins de 5 pieds, 4 pieds 10 pouces. Et cette grande sainte, qui a été nommée docteur de l'Église en même temps que Thérèse d'Avila, il y a une trentaine d'années, est aussi une vraie charismatique. Des charismes, elle en avait. Je vais vous en parler. Je ne veux pas la diminuer en disant qu'elle est charismatique. C'est normal que d'être charismatique. Cessons de s'imaginer que d'être charismatique, c'est d'être un peu parti. Ça a toujours existé dans l'Église. Saint Ignace de Loyola écrivait des prières en langue, imaginez. Alors, Catherine Benincasa, Catherine de Sienne, née le 25 mars, le jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge, hein, quand l'ange Gabriel est venu lui dire qu'elle serait la mère de notre Seigneur. En 1347, elle est morte en 1380, donc à 33 ans. Elle est née à Sienne. Croyez-le pas, elle est la 24e enfant. 24e enfant de Jacques, ou Jacopo, et Lapa Benincasa. Sienne, c'est en plein cœur de l'Italie, c'est au sud de Florence. Hein? Ce sont des teinturiers aisés et très appréciés dans la ville. D'ailleurs, son grand-père était poète. Mais la peste noire ravage l'Europe. La peste noire. C'est une des choses les plus épouvantables qui soit arrivée à l'humanité. La population a diminué de moitié, vous vous imaginez, de moitié. C'est une immense catastrophe. La société donne des signes, d'ailleurs, de décadence. Puis les membres de l'Église n'échappent pas à l'air du temps. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les villes de l'Italie sont sous l'emprise de rivalités perpétuelles. Les gens pensent au pouvoir, à l'argent, aux honneurs. Des familles qui s'arrachent le pouvoir, oui. Et depuis 1300, je vous ai dit qu'elle est née en 1347, les papes, pour échapper aux violences sanglantes de leurs états immenses, les états pontificaux, là, mais se sont réfugiés, passés les Alpes, sont montés en France, sont allés à Avignon. Et voilà ce monde terrible dans lequel la petite Catherine surgit. Et dès l'âge de 6 ans, mais Sainte Catherine de Sienne, car c'est bien d'elle dont je vous parle en parlant de Catherine Benincasa, est interpellée par, dit-on, la vision du Christ. Le Christ qui porte la tiare. La tiare, vous savez, c'est les triples couronnes que les papes portaient jusqu'à tout récemment, il y a une cinquantaine d'années. Puis les habits du pape, il est habillé comme ça. Il est habillé en pape, quoi. Puis elle l'aperçoit au-dessus du chevet de l'église des Dominicains. Il bénit Catherine, il lui sourit, puis à partir de ce moment-là, elle ne pense qu'à se donner à Jésus pour l'aider puis le consoler. Mais elle voit une identification entre le Christ et le pape. Le doux Christ sur la terre, comme elle l'appelait, le pape. Le doux Christ sur la terre. Et ce sera d'abord dans une vie cachée et recluse de prière puis de mortification. Elle est toute jeune. C'est comme ça qu'elle vit. Elle obtient de vivre comme ça à cause de sa vertu puis de son humilité. Elle est très humble, hein? Face à son immense famille qui s'objecte parce qu'elle est jolie puis ils veulent la marier très jeune à 12 ans. Elle reçoit des grâces mystiques extraordinaires. À 16 ans, ils n'ont pas encore réussi à la marier. Elle peut se joindre à une confrérie de pénitentes qu'on appelle les Mantellate. Elle porte un manteau de l'ordre de Saint-Dominique, des Dominicains qui viennent d'être fondés. Et ces femmes-là, les Mantellate, vivent dans l'esprit de Saint-Dominique, qui est un esprit un peu actif, hein? Parce que les Dominicains, ce sont des prédicateurs. C'est leur qualité, l'ordre des frères prêcheurs. Hein? Alors, il y a des veuves et des vierges, et puis elles gardent un célibat d'amour. Elles mènent une vie de prière et de pénitence. Elles sont solidaires, mais pas communautaires. Elles ne vivent pas en communauté, elles vivent chacune chez elles. Catherine aspirait, en effet, à se donner corps et âme à Dieu. Non au cloître cérémonial, mais en mission. Elle vit en mission comme Saint-Dominique. Et durant 3 ans, elle mène une vie de prière intense. Elle est pratiquement recluse dans sa maison familiale. Elle se prépare. Hein. Et vers 1367, donc, 20 ans à peu près, après une expérience forte de son attachement au Christ, il y a des noces mystiques. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, des noces mystiques? C'est un mariage d'amour extraordinaire entre une femme comme ça qui se donne au Christ. Hein. Elle se sent appelée à quitter sa réclusion. Elle soigne les malades. Elle secourt les pauvres. Elle les enrichit parfois de ses propres habits même. Incroyable. Jésus, qui visite Catherine très souvent, l'épouse dans la foi. Quand elle a 20 ans, donc. Il lui passe, voilà ce mariage mystique, il lui passe au doigt un anneau visible d'elle seule. Bon, vous direz que ça n'a pas de bon sens. C'est étrange. Est-ce qu'elle est folle? Pas du tout. Vous verrez. Mais ce jour, le Christ va la faire changer totalement de vie. Il l'envoie en mission, puis il lui dit, elle l'entend. N'hésite pas à m'obéir quand j'aurai décrété de t'envoyer au peuple. Je t'accompagnerai partout. C'est une époque où plusieurs femmes ressentent ces appels. Il y a Jeanne d'Arc que l'on connaît. Hein. Il lui précise à Catherine de Sienne qu'il l'a choisie illettrée car elle ne sait pas écrire. Elle va dicter des textes extraordinaires, des oraisons, des dialogues, des lettres. C'est fabuleux tout ce qu'elle a dicté. On a d'elle. Moi, j'ai ça dans ma bibliothèque. C'est passionnant. Et il lui précise donc qu'il l'a choisie illettrée. Femme, fragile par nature, pour confondre les prétentions niaiseuses des grands et des prélats de son Église. parle durement. Hein? La vie publique de Sainte-Catherine de Sienne commence donc. Et ce sera une vie d'apôtre, marquée par la manifestation de l'Esprit-Saint pendant une douzaine d'années. Oui, 12 ans, elle va se livrer à une action dans l'Église et la société. C'est unique pour une femme dans l'histoire de l'Église, peut-être. Unique, oui. Elle sera sur tous les fronts. La peste, elle est dans la rue et les hôpitaux pour soigner les malades. La guerre civile à Florence ou à Sienne, où les familles se disputent, elle est au milieu donc des familles pour réconcilier et enseigner la paix. Le pape Grégoire XI l'a fait venir en Avignon. Puis c'est le pape Urbain VI qui l'appelle à Rome. Deux papes. C'est fantastique. Il est tout à fait historique, mais c'est pas de l'imagination. Il faut bien dire que le 13e et 14e siècle voient naître, je vous l'ai dit, plusieurs associations pieuses de laïcs au sein des communautés en pleine expansion, et c'est au début, on peut dire, des tiers-ordres, de ces groupes de laïcs actifs dans l'Église. Les classes moyennes aspirent à participer à la vie religieuse, sociale et politique. Le peuple devient acteur de son histoire. Ah, si on pouvait faire ça ici, au Québec, hein. Il prend les choses en main, le peuple. Un souci de rendre la société plus conforme à l'idéal évangélique. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? C'est là qu'est le bonheur. Et ce souci fait apparaître des saints. Dans les rangs des seigneurs, des nobles dames, comme on disait. Mais aussi dans les milieux d'artisans puis de marchands même. Pourquoi pas? Tout ça survient au moment de l'accroissement des villes puis de la mobilité géographique, hein, les déplacements de population. Évidemment, les formes de mysticisme, ce ne sont pas à l'abri des dérives. Hein. Le mysticisme, c'est superbe, mais parfois, il y en a qui sont un peu capotés, comme on dit, qui rentrent là-dedans, là, puis il faut qu'ils soient dirigés. Et faire attention. Les groupes de dévots sont canalisés par les ordres mendiants qui s'en occupent. Ils s'occupent des dévots pour faire qu'il soit dévot, mais pas... Sainte-Catherine de Sienne a particulièrement à cœur le soin des âmes, en ville comme dans les monastères, puis elle désire la réforme de l'Église, qui est tout engoncée dans ses préoccupations d'un autre âge. Vers 1373 commencent ses prédications publiques. Elle a 26 ans. Elle prêche. En public. Elle fait des négociations pour la paix et autour d'elle se forme une nouvelle famille. Elle l'appelle la Bella Brigata. C'est une belle brigade, si vous voulez. Un mélange étonnant d'hommes et de femmes, de clercs, de laïcs, de religieux, de divers bords, là, des nobles, des personnes très humbles. Il l'accompagne dans ses missions puis il recommande leur âme à son amour maternel. En Toscane, ils sont une douzaine. Toscane, elle vient de la Toscane. La Sienne, c'est en Toscane. À Avignon, ils sont 22. À Rome, une trentaine. Ça commence à faire du monde, hein, qui la suit. Et de deux choses l'une, où la société change et l'on se replie sur l'individualisme, ou la société change et l'on se replie sur l'individualisme, sur le retrait du monde, sur le mysticisme, ou les changements de la société nous arrachent finalement à nos retranchements puis nous plongent dans la mêlée. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se plonger dans la mêlée et toute vocation se cherche puis Dieu la guide et la purifie, hein. Et Catherine cherche sa voie jusqu'à ses 20 ans, donc. Dans ce temps-là, la tradition situait le lieu idéal de la rencontre de Dieu au désert. Fallait aller au désert, fallait se mettre à l'abri du monde et du tumulte populaire. Parce que je vous ai raconté qu'à 6 ans, la petite fille du teinturier cherche une grotte hors de Sienne à ce moment-là. Vous savez, elle a ses visions mystiques. Elle veut s'en aller dans une grotte, mais Dieu la ramène bien vite dans la société. Elle cherche dans sa maison familiale, n'est-ce pas, des cachettes pour se retirer, pour prier, puis elle veut pas se marier. Mais ses parents opposaient son projet de vie et lui enlèvent bientôt tout lieu où elle pourrait se retirer. Catherine s'invente alors une cellule intérieure que personne ne pourra lui enlever. La cellule de la connaissance d'elle-même en Dieu et de Dieu en elle. Et elle peut la transporter partout, sa cellule intérieure, près des pauvres, dans les hôpitaux, les châteaux, mais aussi dans les villes révoltées de Toscane. Là où le Seigneur ne tarde pas à l'envoyer, puis elle va à Pise, à Luc, à Florence, et plus loin, à Avignon ou à Rome, partout où se joue l'avenir du peuple et de l'Église d'Occident. Elle est partout. Sainte-Catherine de Sienne n'est pas du tout portée vers les hauts lieux de la vie publique, mais c'est le Christ qui l'envoie. Et durant 10 ans, jusqu'à son séjour à Rome, son existence n'est plus qu'un éternel voyage, et les derniers mois de sa vie, elle se rend chaque jour au tombeau Saint-Pierre, au Vatican, pour ramer avec lui dans la cette espèce de grand bateau de l'Église, en priant pour le corps du Christ, pour la conversion du pape, pour la conversion des ministres, pour la conversion des fidèles. Et chez Sainte Catherine de Sienne, dont il est question aujourd'hui, on trouve des oraisons qu'elle a dictées. C'est magnifique. J'avais acheté ça quand j'avais 16 ans. C'était les oraisons de Sainte Catherine de Sienne, publiées à l'époque à l'art catholique, avec des bois gravés. C'est magnifique. Je vous lis le début, tout début de la 13e oraison qui était faite à Rome. Ô déité, ô Dieu d'amour, que puis-je dire de votre vérité? Parlez vous-même de la vérité, vous qui êtes vérité. Moi, je n'en sais rien dire, je ne puis parler que des ténèbres. Je n'ai pas recherché le fruit de votre croix, je n'ai suivi que les ténèbres et sans connaître les ténèbres. Je sais bien que celui qui connaît les ténèbres connaît aussi la lumière, mais ce n'est pas ainsi que j'ai fait. J'ai suivi les ténèbres, mais sans connaître ce qu'elles sont. Dites-moi donc, Seigneur, la vérité sur votre croix, et je vous écouterai. Vous me dites qu'il en est qui persécute le fruit de votre croix, et que le fruit de votre croix, c'est vous-même. Oui, le Christ, qui est le fruit de la croix, est persécuté. Et il faut écouter la parole de Jésus qui est la vérité, c'est là qu'on trouve le bonheur. Elle écrit une correspondance énorme, j'en ai plusieurs lettres dans un livre qui s'appelle le livre des dialogues de Sainte Catherine de Sienne aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre de près de 1000 pages avec des tables et tout. Et c'est relié, c'est splendide, c'est toujours édité. Moi, je l'ai eu dans les années 50, c'est paru en 1953, mais c'est toujours sur le marché. C'est splendide parce qu'on y trouve une partie des 382 lettres, mais on trouve aussi, surtout, le livre des dialogues de Sainte Catherine de Sienne. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage. Donc, sa correspondance dictée, puisqu'elle ne savait pas lire et écrire, comprend... Il y a des laïcs, des religieux, des artisans, des chefs militaires, des cardinaux, des seigneurs, le pape lui-même, des rois, des reines, des tyrans, des familles, une pécheresse notoire même. C'est incroyable. Elle écrit tout ce monde-là. Elle parle de leur conversion personnelle, gêne pas, de la réforme du gouvernement, tant civil qu'ecclésiastique. Elle parle de la paix, de la solidarité avec la chrétienté menacée en Terre Sainte par les musulmans. Son dialogue, dont je vous ai parlé, le livre des dialogues, dépasse le cadre de ses lettres pour atteindre une portée universelle. C'est incroyable. Comme elle est fille de son temps, elle parle au cœur de tous les temps troublés. Elle parle du discernement, elle parle de l'oraison de façon fantastique, de la providence. Elle parle aussi de l'obéissance. Elle y dicte donc en un seul livre ce que Dieu lui a appris et qu'elle a enseigné en diverses circonstances, dans des lettres aussi, tout au long de sa mission. C'est considérable, hein? C'est énorme, c'est pas tout petit ça. Puis ces oraisons dont je vous ai parlé, je viens de vous en lire un petit bout là, c'est le recueil de ses prières durant les 4 dernières années de sa vie. C'est de toute beauté. Moi, j'aime beaucoup ça. Elle y parle de Dieu, de la paix, de l'Église et de nous avec Dieu. Ses disciples, en l'écoutant, ont recueilli ses paroles au vol pour donner, on pourrait dire, à nos prières un peu d'envol. On en a tellement besoin d'envol dans nos prières. Nos prières sont souvent, à mon avis, bien ternes. Catherine nous montre la foi agissante au cœur du monde civil et politique parce que l'incarnation du Christ concerne des hommes et des femmes, oui, qui sont pris dans une histoire. Nous sommes pris dans une histoire. Nous sommes souvent aux prises avec la peur. Hein, et la peur fait son lit dans les malheurs du temps. Le pape a beau nous dire « N'ayez pas peur, nous avons peur. » Les réalités politiques, les haines héréditaires sont tempérées par l'assassinat à son époque. Et comme ça se fait aujourd'hui au Kosovo, puis malheureusement en Éthiopie, puis en Érythrée, puis au Soudan, puis... mon Dieu, c'est terrible. Les déchirements des familles, l'insécurité, l'exil des papes. Hein. Il se passe toutes sortes de choses, c'est la torpeur des pasteurs, des prêtres, des évêques. La torpeur. Il y a le comportement timoré aussi des gouvernants. Tout ça se fait se lever Catherine. Elle se lève comme le prophète Élie. Et là où les grands tremblent, elle arrive, toute petite, comme envoyée de Dieu. Quand ils ne prennent pas leurs responsabilités, elle écrit alors. Et en pleine révolte armée des cités toscanes contre les états pontificaux, pauvre et timide pape Grégoire XI envoie ce petit bout de femme en sorte d'ombudsman, si vous voulez, à Florence pour y négocier la paix. Et elle décide à quitter la forteresse puis la protection politique de la France pour en avion pour trouver le siège de Saint-Pierre dans une Rome qui est bien troublée. Il avait fait le vœu intérieurement d'y aller, puis elle le savait. Il était tout surpris de voir qu'elle le savait par une révélation intérieure. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'audace de ce petit bout d'homme, comme on disait à l'époque. Petit bout de femme, quoi. Au triple handicap d'être illettré, c'est pas tout à fait un handicap à l'époque d'être femme, parce que les femmes avaient beaucoup de prestige, hein, comme nous le dit Régine Pernoud, dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Puis elle est laïque, mais ça, c'est pas facile d'être laïque. Hein. Elle écrit « Ceux qui ont placé leur confiance en eux-mêmes craignent toujours, ils ont peur de leur ombre. » C'est dans les dialogues, ça. Dans la 202e lettre, elle dit « Fais-toi la plus petite des petits pour ouvrir les écluses de la miséricorde infinie, pour te permettre toutes les audaces et te mettre au service de toutes ces entreprises rédemptrices. » Elle écrit au seigneur de la ville de Sienne, sa ville natale, elle dit « Je vous écris avec le vif désir de vous voir des hommes forts et non pas des gouverneurs timides de votre cité spirituelle. » Leur cité spirituelle, c'est quoi? C'est leur âme. Et de la cité aussi qui vous est confiée, Sienne, car je vois que la crainte servile enchaîne et avilit le cœur, rendant l'homme semblable à un animal sans raison. En d'autres termes, elle les traite de tête vide. Elle ne se gêne pas. Hein? La crainte servile, quand on y pense, est à la racine du mauvais gouvernement. La crainte servile se nourrit de l'amour propre. La crainte servile, elle sévit chez les laïcs, chez les religieux, hein? Chez tous ceux, dit-elle, qui se recherchent eux-mêmes. Celui qui en est habité, dit-elle, cherche à plaire aux hommes et juge selon la volonté des autres et non selon la vérité. Il craindra de déplaire et de perdre aussi sa puissance et alors tout lui fait peur. Espérons que notre gouvernement n'aura pas peur de préserver l'enseignement de la religion de la très grande majorité de notre population, la religion qui est souhaitée par une très grande partie de notre population, qui est pécheresse souvent et qui ne pratique pas mais qui veut. Il faut les renseigner, il faut les rejoindre, il faut que Radio Ville-Marie soit bien mieux connue. Il faut, je regrette de le dire, mais qu'on en parle dans les églises à l'occasion, ne serait-ce que 30 secondes, pour dire qu'on a entendu quelque chose de merveilleux à 91,3 FM et à 100,6 à Sherbrooke. Un poste à Sherbrooke aussi. À l'opposé de la crainte servile, il y a la crainte filiale. La crainte filiale est véritable. Ayons cette crainte filiale et véritable. Cette crainte, c'est cette crainte, cette peur de déplaire et de faire du chagrin à Dieu. Parce que cette crainte qui est faite de l'amour a son regard fixé justement sur l'amour de Dieu et le service du prochain plutôt que sur les déplaisirs du moi, de notre petit moi. Qu'est-ce que ça peut faire que notre petit moi soit accroché, frappé, traité d'imbécile et d'idiot, puis de fanatique et d'illusoire. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour de Dieu puis le service du prochain. Un point, c'est tout. Celui qui est esclave, d'ailleurs, de lui-même et des autres, comment pourrait-il être serviteur d'autrui? Au contraire, ceux qui sont habités par la crainte filiale n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur de perdre les biens matériels et spirituels, puis de souffrir, puis de mourir, comme les saints martyrs canadiens dont il était question juste avant mon émission. Cette audace fut le signe que l'on a vu chez les disciples après qu'ils ont reçu l'Esprit au début de l'Église. Ils étaient des audacieux, puis au cœur des difficultés tragiques, les chrétiens sont moins inspirés par l'humanité glorieuse du Christ que par sa souffrance et sa compassion, et des groupes fervents de pénitents et d'amis de Dieu contribuent à rendre la foi très, très personnelle. Mais Catherine, elle veille toujours à débusquer la recherche de consolation qui retourne l'âme vers soi. Oh, ma petite consolation, ma petite apparition de notre Seigneur, ma petite affaire. Taisons-nous sur des apparitions. Ne parlons pas des grâces que nous recevons, sauf à notre directeur. Et Toutes ces petites recherches de consolation détournent de la souffrance des hommes. Le Christ lui dit à travers ses écrits, « À moi, vous ne pouvez rendre un tel amour que je vous ai témoigné, mais je vous ai donné la médiation du prochain, afin que vous fassiez pour lui tout ce que vous ne pouvez pas faire pour moi. » Et Catherine brûle comme un feu. Ah, Catherine de Sienne, elle est fantastique, cette petite bonne femme. Ah, non, celui de la passion humaine, c'est pas ça qu'elle a en elle, mais c'est la passion du Christ. La passion du Christ. Serons-nous un jour amoureux de Jésus-Christ? Fou de lui. Son expérience mystique lui donne envers nous et envers le Père les mêmes sentiments que ceux qui furent dans Christ Jésus, comme il est dit dans l'Épître aux Philippiens. Alors que beaucoup se demandent s'il faut encore accorder crédit à un clergé qui est souvent indigne à l'époque, elle leur fait aimer l'Église du dedans. Peu importe ce qu'on raconte sur quelques prêtres ici et là, la majorité des prêtres n'est pas indigne chez nous, et nos évêques non plus. Il faut aimer l'Église du dedans. L'aimer parce qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. Non en vertu des qualités des prêtres de toute façon, puis des qualités des laïcs, mais en vertu du ministère des clercs qui leur est confié par le Christ. Leur sacerdoce est immense. C'est celui de nourrir l'Église par les sacrements. Quand le corps et le sang du Christ sont négligés, les fidèles deviennent asthéniques. Et elle dit, elle, Catherine de Sienne, que l'épouse devient toute pâle. En son temps troublé et inquiet, Catherine est habitée par une vision foncièrement optimiste de l'homme, par une foi vive en la Providence. Puis elle sait qu'elle n'existe que par Dieu. Elle n'a qu'une passion. Elle veut obtenir la miséricorde de Dieu pour elle et pour l'Église et pour le monde. Et tandis que se lèvent des prophètes de malheur et que son confesseur lui confie son trouble, lui devant les maux de l'Église et du monde, comme ça nous est dit souvent aujourd'hui, mais elle a cette réaction merveilleuse que nous devrions tous avoir à la douleur qu'elle ressentait de l'injure faite à Dieu. Se joignait chez elle l'allégresse d'une vive confiance que Dieu pourvoirait à tant de maux. Remarquons que sa douleur porte sur l'offense faite à Dieu, puis non sur le désarroi qui nous atteint. Nous sommes pleins d'angoisse, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'offense qui est faite au Christ et à Dieu. La façon dont on traite Dieu à la télévision, la façon dont on traite Jésus-Christ dans des écrits, des articles. Oh, Catherine a la passion. Oui, Catherine a la passion de l'Église. Est-ce qu'on a ça, nous, la passion de l'Église? Elle prie et prêche pour obtenir la réforme de l'Église. C'est le temps de prier pour que le synode de Montréal fasse de notre Église une Église de saints. Alors Catherine vainc donc les dernières hésitations du pape à revenir d'Avignon à Rome. Elle lutte jusqu'à la fin pour garder l'unité du corps de l'Église, qui est déchirée de haut en bas par les partisans de deux papes simultanés. Elle meurt à 33 ans, en 1380, sans avoir vu la fin du schisme. Elle offre sa vie pour l'avenir de l'Église. C'est Paul VI qui l'a nommée docteur de l'Église, cette petite femme illettrée, en disant « Elle est la mystique du corps mystique ». Elle a été nommée docteur en même temps que Thérèse d'Avila en 1970. Elle n'a pas été nommée seulement pour son enseignement, mais aussi à cause des soins prodigués dans le jeûne et l'éveil à l'Église dont elle dit « L'épouse est toute pâle ». Mais c'est pas tout. Catherine va recevoir les stigmates en 1375 à 28 ans. Et elle dictera son livre des dialogues à la fin de sa vie, tandis que son ministère d'apôtre va finir de l'épuiser à l'âge de 33 ans. Elle mourra à Rome entourée des noms de son nombreux enfants spirituels. Elle a écrit peu de temps auparavant à un frère dominicain. « Ah, c'est beau ça. Soyez certain que si je meurs, l'unique cause de ma mort est le zèle pour l'Église qui me brûle et me consume. » Oui, soyez certain que si je meurs, l'unique cause de ma mort est le zèle pour l'Église qui me brûle et me consume. Sainte Catherine de Sienne est saisie par Dieu. Soyez certain que si je meurs, l'unique cause de ma mort est le zèle pour l'Église qui me brûle et me consume. C'est tout l'être de Catherine qui se trouve pris dans la mouvance de l'Esprit-Saint. Et les charismes que le Seigneur lui donne, d'exercer, sont tout à fait typés pour le but poursuivi. Le but poursuivi, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Est-ce que nous sommes pris par cette angoisse? Le salut des hommes. Savez-vous ce que c'est, les jeunes, ce que ça veut dire, le salut, un salut? Hey, salut, les boys. C'est pas ça. C'est la liberté, la libération. Si ces deux jeunes qui ont assassiné plusieurs de leurs confrères et consoeurs et un professeur à l'école, à Littleton, avaient été saisis par le Christ, ils n'auraient pas dit à l'une des jeunes filles, « Do you believe in God? » Est-ce que tu crois en Dieu? Puis quand elle a dit qu'elle croyait en Dieu, il lui a tiré une balle dans la tête. Quelle horreur! En plus du salut des âmes, Catherine de Sienne est dévorée par l'annonce. L'annonce qu'on appelle toujours ça l'annonce de la bonne nouvelle et du royaume au cœur de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire, quand il y a des mauvaises nouvelles puis des bonnes nouvelles, mais l'annonce de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a un Père, Dieu, qui nous aime d'un tel amour, que son Fils est venu sur la terre pour nous révéler cet amour, pour nous envelopper de cet amour, pour nous le prouver en mourant même sur la croix, en disant qui il était. Il n'y a pas craint de dire qui il était. Nous, on craint de dire qu'on est catholique. On craint de faire le signe de la croix au restaurant. On craint, on a peur tout le temps. C'est l'établissement du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le royaume. C'est que Dieu est le roi de ce monde. Un doux roi. Le Christ est un doux roi. Le royaume au cœur de l'Église. Dans la fidélité à cette Église. Les charismes lui sont donnés pour ses années de ministère. Elle a un ministère de laïc, étrange, extraordinaire. Et les charismes chez Catherine de Sienne sont souvent exercés de façon mêlée, les uns aux autres. C'est la preuve qu'ils sont tous donnés pour une mission déterminée à laquelle elle se livre tout entière. Elle fait pas les choses à moitié. La diffusion de la charité en vue du salut des âmes. Répandre l'amour. Ça sous-tend la manifestation de tous les caresses, tous les dons qu'elle a. Elle les exerce dans la plus grande humilité, d'ailleurs. Elle est humble. Elle est humoristique, des fois. C'est une humoriste. Elle rompt pas avec son vécu quotidien. Elle ne cesse pas d'être la petite Catherine Benincasa, la 24e enfant de sa famille à Sienne. Elle a un charisme de guérison, d'ailleurs. Et ses guérisons obtenues par la prière et les mains de Catherine sont des guérisons physiques, spirituelles ou des délivrances. La raison de tout ça, c'est que ces guérisons qu'elle opère ont pour but quoi? La manifestation de la présence de Dieu qui nous aime. Elle suscite la louange aussi, les guérisons. Elle suscite des actions de grâce, des remerciements de la part de l'intéressé puis son entourage. Vous avez entendu les jeunes qui se sont sauvés à Littleton et qui n'ont pas été tués puis qui ont réussi à s'en sortir. C'est des actions de grâce et des prières à Dieu. Ils remercient Dieu. Ça les a rapprochés de Dieu. Et parfois, il y a aussi des conversions, puis il y en a des conversions là-bas. Catherine a fait connaître à son confesseur, la vue du grand schisme avec plusieurs papes et les tourments que va subir l'Église. Elle prédit aussi la vie nouvelle qui sera ensuite donnée à l'Église après ce temps de purification puis de renouveau, de sainteté, comme j'espère on va l'avoir ici à Montréal, à Sherbrooke et dans tout le Québec. Rendez grâce au Seigneur, car après cette tempête, dit-elle, il accordera un grand calme à son Église. Alors Catherine révèle souvent les pensées secrètes qui tourmentent les personnes. Elle s'en trouve délivrée, consolée. Elle guérit des gens troublés. Le pape Grégoire XI l'avait fait venir à Avignon, en France. Elle lui dit qu'il doit rentrer à Rome. Ben, cesser de vivre en France. Il a peur d'aller à Rome, parce qu'il y a toutes sortes de troubles. Le pape reste indécis, puis il réplique, « Je ne te demande pas de conseil, Catherine, mais au nom de la sainte obéissance que tu me dises, sur ce point, la volonté de Dieu. » Alors Catherine baisse la tête bien humblement, puis elle répond, « Qui le sait mieux que votre sainteté, qui a fait le vœu de rentrer à Rome? » Et Grégoire XI reste stupéfait, hein? Mais à l'instant, confirmé et convaincu, car il n'avait parlé à personne de son vœu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un exemple d'un charisme extraordinaire. Ça. Elle a des charismes formidables. Elle est un enseignement vivant. On dit qu'à sa seule vue, elle répandait la consolation et la joie. Elle est tout le temps accompagnée d'un groupe de laïcs, comme je vous ai dit, qui sont tous convaincus pas des gens qui la suivent parce que c'est extraordinaire, puis ils veulent être témoins de choses merveilleuses. Pas du tout, c'est pas ça. Cessons de courir après les saints parce qu'ils font des miracles. Courons après les saints pour rencontrer Dieu plus profondément au fond de notre cœur. C'est une femme absolument fantastique, cette toute petite sainte. Et la parole de Catherine de Sienne remet le feu dans les cœurs. Elle console, elle l'illumine par sa clarté d'exposé puis son autorité. Autant de qualités attachées au charisme de l'enseignement. Les gens restent complètement stupéfaits de l'exposé qu'elle peut faire. Il y a dans son discours un si bel ordre que c'est évidemment l'Esprit-Saint qui parle par sa bouche, dit un abbé de monastère. Ce charisme est certainement celui qu'on voit tous les jours chez cette sainte, car en plus de tout ce qu'elle peut dicter là, car elle sait pas écrire, c'est un enseignement réel qu'elle dispense, et chaque lettre, oh, des belles lettres, commence par une parole sur l'amour de Dieu ou sur le Christ. Et sa façon de dire « je veux » est restée célèbre dans son portrait spirituel. Elle dit « je veux que vous changiez de vie ». Il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est simplement qu'elle est passionnée. Si elle ne dit pas « je veux », elle emploie l'impératif. Elle dit « sors de cette servitude ». C'est comme ça qu'elle parle à une prostituée. « Sors de cette servitude ». Elle dit à un soldat « changez de vie ». Elle, si réellement humble, comment peut-elle se permettre une telle autorité? Ben, s'en explique elle-même. Elle dit, moi, je ne suis pas. Dieu seul est celui qui est. Et c'est parce qu'il a blessé mon âme que j'ose dire ce que dit le Christ. Elle ose, car c'est Jésus qui dit par elle ce « je veux ». Elle est docile à la mouvance de l'Esprit-Saint. Et Catherine est obligée de dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Comme disait saint Paul. En somme, l'amour presse Catherine. Et en déclarant Catherine de Sienne, une illettrée, je vous le répète, une analphabète, si vous voulez, docteur de l'Église en 1970, Paul VI l'a reconnu officiellement, son charisme d'enseignement pour le bien de l'Église. Et de façon universelle, il a terminé son discours par ces paroles-ci, je vous les cite, c'est Paul VI qui parle, qui était un saint homme à mon avis, non contente d'avoir donné un intense et très vaste enseignement de vérité et de bonté par sa parole et ses écrits, Catherine de Sienne a voulu sceller celui-ci en offrant sa vie pour le corps mystique du Christ qui est l'Église. Oui, voilà l'exemple à suivre, d'offrir sa vie pour notre Église. Offrir notre vie pour l'Église. Oh, j'aurais le goût de vous lire deux mots d'une belle oraison. La première, ô Déité, Déité ineffable, Déité, ô bonté souveraine qui nous avez fait à votre image et ressemblance, et uniquement par amour.